Ce débat va s'appeler le temps de l'action. Donc après tout ce que vous avez entendu ce matin, en fait, on a envie de vous inviter à un débat, j'allais dire, optimiste. Après ce documentaire où il y a eu des images qui étaient parfois un peu insoutenables, mais toujours très émouvantes, je pense que nous voudrions avoir un débat un peu positif et essayer de réfléchir comment chacun d'entre nous peut être acteur, effectivement, pour essayer de sauver notre belle planète. Donc, je suis responsable des pages Planète au journal Le Monde, et chaque jour, pour moi, c'est un vrai problème, quand j'ai mon équipe en face et qu'on discute en conférence de rédaction, savoir ce qu'on va écrire dans le journal, parce que c'est sûr que les chiffres que l'on a sur le développement durable, l'environnement, tout ça n'est jamais très, très optimiste. Et à chaque fois, on essaye de se dire, bon, si on voulait ne pas désespérer le lecteur, qu'est-ce qu'il faudrait écrire ? Essayer de trouver des initiatives pour montrer que les choses bougent un peu. Je voulais juste vous rappeler quelques chiffres, même si je pense que vous les avez déjà entendus assez souvent ces derniers jours. 1000 milliards d'euros, c'est ce qu'il faudrait pour que les pays en développement puissent chaque année se prémunir contre le réchauffement climatique. Et personne, pour le moment, n'a trouvé le financement nécessaire. 13 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année. C'est l'équivalent d'un terrain de football toutes les 2 secondes. La biodiversité, 38% des espèces observées par l'Union internationale pour la conservation de la nature sont menacées d'extinction. Un oiseau sur 8, un mammifère sur 4, un amphibien sur 3. Le temps est donc vraiment d'agir. Alors, est-ce qu'il faudrait ce matin, les intervenants, essayer de définir un nouveau modèle de croissance ? On s'est rendu compte que c'était assez difficile. Croissance verte, peut-être, mais est-ce que ce n'est pas simplement une pierre dans l'eau ? Est-ce que ces technologies ne vont pas simplement, elles aussi, consommer de l'énergie ? Pour sauver la planète, faut-il sortir du capitalisme ? C'était aussi un des thèmes de ce matin. Je ne suis pas sûre qu'on en soit encore là. Et quant à l'engagement et la prise de conscience des gouvernements, on verra ce que ça va donner au sommet de Copenhague, mais si vous étiez là ce matin, vous avez bien entendu que ce n'était pas vraiment l'optimisme qui était au rendez-vous. On pense même que le protocole qui va être signé, ce sera simplement une déclaration de belle intention. Donc je voudrais revenir et discuter aujourd'hui en écoutant les témoignages d'abord, pour commencer, par le binôme Sébastien et Cyril. C'est une drôle d'aventure dans laquelle vous nous avez emmenés en regardant votre documentaire. Ce ne sont pas les moyens de Yann Arthus-Bertrand pour Rome, encore moins ceux de Nicolas Hulot pour le syndrome du Titanic, et encore moins ceux de Jacques Perrin qui va bientôt sortir un film sur Océan. Mais votre film est très 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 intéressant parce que vraiment on rencontre les gens qui se mobilisent. Donc je voudrais que vous nous parliez un petit peu chacun, on va commencer par Cyril, de cette aventure. Comment est-ce que ça vous est venu et quelle est votre démarche ?
1, 2. Bonjour à tous d'abord et comme à chaque fois, merci d'être là pour cette séance, cette projection à ce film. Et puis merci effectivement aux organisateurs des journées de l'économie. C'est bien aussi que des espaces comme celui-ci, qui ne sont pas des espaces naturellement de diffusion de films, de cinéma, permettent ces rencontres-là. Alors moi je vais vous parler du film, de mon travail, puisque moi je suis l'auteur et le réalisateur de ce film. Moi je suis documentariste, donc c'est mon métier de faire des films. Je ne suis pas journaliste, donc j'essaie d'avoir une approche un peu plus sensible et d'auteur des sujets que l'on me propose. Au départ, avant tout, il y a le projet de Sébastien. Je ne vais pas en parler, il le fera mieux que moi. Simplement, en fait, on est venu me demander en fait d'accompagner Sébastien dans son tour du monde que lui a organisé pour faire un travail documentaire. C'est la société Canary Film avec laquelle je travaille depuis pas mal d'années, qui est effectivement une petite société de production. Et ça, je pense que c'est un point important. C'est un film qui a été fait avec très peu de moyens, sur lequel effectivement il y a eu beaucoup de prises de risques humaines, personnelles et financières, dont on paye encore les conséquences aujourd'hui. Ça, je crois que c'est vraiment important de souligner. C'est vrai qu'on n'est pas dans... On est loin d'être une très, très grosse machine avec un plan com qui est mis en place derrière. Moi, ce qui m'a intéressé à l'origine dans l'aventure de Sébastien, c'est que, d'une part, c'est l'aventure d'un homme ordinaire. Sébastien, il est enseignant, il est professeur d'éducation sportive. Et je trouve que ce n'est pas fréquent d'avoir un quidam, c'est-à-dire l'un d'entre nous, qui... parce qu'il a des préoccupations et des questionnements fondamentaux, veut aller trouver des réponses et est prêt à mettre tout ça en jeu pour le faire. Donc ça, moi, c'est la chose qui m'a intéressé, l'histoire d'un homme simple qui va rencontrer d'autres hommes simples à travers la planète, nouer un dialogue avec eux. Et je me suis dit qu'il y avait là non seulement la base d'un beau projet de cinéma, mais également la possibilité de faire un film qui ne soit pas un film didactique, pédagogique, mais un film au niveau de l'humain. Et puis aussi, surtout, ce qui moi, m'a beaucoup touché dans la rencontre aussi physique avec Sébastien, on s'est rencontrés... Alors,
la rencontre tout court.
La rencontre tout court. Mais non, moi, Sébastien, on a quand même passé 3 mois ensemble autour du monde. On a partagé des chambres d'hôtel. Donc, bon, voilà, je veux dire la réalité. En tout bien, tout honneur. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est aussi qu'il y a cette volonté de porter un message positif, mais réaliste. C'est-à-dire que le film n'est pas un film, je crois. On n'a pas cherché à dramatiser, mais on n'a pas cherché à esquiver les situations. Simplement, on a voulu délivrer, et Sébastien avait ça en tête dès le départ, un message, certains diront naïf, idéaliste, en tout cas pour moi positif, c'est-à-dire oui, il est possible de mener une action, qu'elle soit au niveau local, qu'elle soit au niveau régional ou au niveau international, qui porte ses fruits. Et que c'est bien le cumul de ces actions, dont chacun peut être maître d'œuvre, qui progressivement fait avancer les choses. Et ça, je crois que pour moi, c'était fondamental, et de me mettre au diapason de ça, c'est-à-dire de trouver la façon de, artistiquement, transcender cette démarche-là dans la démarche de Sébastien. Donc après, ben, effectivement, il y a un travail d'auteur pour ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour raconter une histoire, comment on fait pour aller dans ces pays-là et en une semaine montrer ces situations. Je disais que c'était un projet qui s'est fait avec très peu de moyens, c'est-à-dire que très concrètement, Sébastien a voyagé dans 27 pays, moi je l'ai accompagné dans 9 pays, donc le tiers de son voyage, 3 mois de tournage, on n'en a retenu que 5 parce que ce n'était pas possible de tout montrer, aussi parce que moi je souhaitais qu'on laisse place aux êtres humains que l'on voit dans ce film, au Padre Tamayo, à Demetrio, et que ces gens-là ont besoin de temps pour dire ce qu'ils ont à dire, et donc on ne pouvait pas faire un truc de reportage en 5 minutes, rapidement. Faire un travail aussi filmique sur une aventure comme celle-ci, c'est complexe parce que moi, en tant qu'auteur, comment je fais pour filmer une famille qui vit dans une décharge publique? Comment je fais pour filmer les enfants à Bhopal? Et moi, qui suis le pur produit d'une société occidentale qui, quand même, porte une immense responsabilité sur les dégradations environnementales et climatiques dont on discute depuis un certain temps maintenant, ces questionnements-là, ils sont aussi à l'œuvre quand on fait un film comme ça. On en parlait beaucoup avec Sébastien. Et c'était effectivement pas évident aussi de savoir comment se positionner pour essayer d'être le plus juste possible, pas être voyeuriste, mais en même temps montrer les choses. Voilà, donc ça c'était pour vous parler un petit peu de ce qu'a été le film. Donc 9 pays, 140 heures de rush, c'est-à-dire que ce que vous voyez dans le film, c'est moins de 1% de ce qui a été filmé. Donc il va de soi que le travail de montage et d'organisation était extrêmement complexe pour qu'il y ait cette cohérence d'un message qui nous accompagne, qu'on se prenne des claques dans la gueule et puis qu'on puisse rebondir derrière. Voilà. Moi, mon travail était effectivement de donner un corps à cette aventure-là, de donner un sens filmique et de vous le transmettre. Voilà ce que moi, à mon niveau, je pourrais dire de cette aventure. Parce que moi aussi, en tant qu'individu, bien sûr, ça me touche cette question de comment on s'engage et comment on intervient. Et pour finir à mon niveau, on pourra peut-être après en discuter, il y aura peut-être des questions. Encore une fois, tirer mon chapeau à l'équipe Canary Film, parce qu'en tout et pour tout, il y a 5 personnes au départ de ce projet, Sébastien, moi, et 3 personnes à Canary Film, donc on n'est pas très très nombreux. Ce qui fait qu'il n'y a pas de DVD, par exemple, du film actuellement. Voilà, on est encore un peu, il arrivera dans quelques mois, mais on est encore un peu dans ces batailles-là. Et c'est dire que c'est une aventure portée à bout de bras. Pour finir, je voudrais dire que, faire une petite passerelle. Donc le film est fini depuis le mois de juin et actuellement voilà, comme quoi il y a des suites logiques. Je travaille sur un autre projet documentaire qui finalement est une forme de prolongement de ça. Là j'arrive du Pays Basque où je suis parti 3 mois en fait pour filmer, donc c'est sur internet en fait, pour une web TV basque. En fait il existe sur la côte basque un collectif militant environnemental qui s'est créé depuis quelques mois qui s'appelle Bici, ce qui veut dire vivre en basque, et qui mène des actions de sensibilisation de l'opinion publique sur les problématiques du réchauffement climatique et qui va monter à Copenhague. Donc moi je les suis depuis 2 mois pour montrer comment fonctionne un tel collectif, qui sont les individus qui constituent ce collectif, et on va monter à Copenhague dans quelques semaines maintenant. Et c'est pour dire aussi que voilà, Ici, par exemple, sur notre territoire, il y a un prolongement, c'est d'autres formes de résistance, mais c'est des gens qui sont enseignants, qui sont profs et qui mènent une bataille à leur niveau et sur un terrain local aussi. Et ça, c'est important. Donc, actuellement, je fais ce projet, ce film, qui est une autre aventure, mais qui, je crois, doit beaucoup à cette aventure qu'on a vécue ensemble avec Sébastien. Voilà.
Merci. Donc Sébastien, comme l'a rappelé Cyril, vous êtes professeur de collège et de lycée. Vous m'avez expliqué tout à l'heure que devant le fatalisme de vos élèves, ils disaient « mais on n'arrive à rien faire, l'environnement se dégrade, rien ne bouge ». Et donc vous avez décidé de mener cette aventure avec Cyril. Dans le film, à la fin du film, vous semblez effectivement avoir des difficultés à dire « bon, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais rebondir après cette aventure? Est-ce que je vais réussir à faire mon deuil ?» D'abord, est-ce que vous avez fait votre deuil et comment est-ce que vous avez rebondi?
J'ai pas finalement fait vraiment un deuil puisque je continue à travailler avec toutes ces personnes que j'ai rencontrées et je vais vous expliquer un petit peu comment. Moi, je voulais revenir justement sur la genèse de ce projet-là. En effet, je suis enseignant en collège et lycée et l'idée de ce projet m'est venue en fait face à mes propres élèves, c'est-à-dire que leurs questionnements finalement sont nos questionnements à tous, c'est-à-dire que face à l'ampleur colossale des défis environnementaux, le premier réflexe, c'est de se dire moi, je suis pas grand, je sais pas ce que je peux faire, j'ai pas de moyens. La seule chose qu'on partage tous, c'est qu'on sait qu'il y a un vrai problème environnemental, on sait qu'il y a une situation d'urgence, et ce message-là, maintenant, il est bien passé. Je veux dire, les élèves que j'ai en face de moi, qui ont même 10 ans, 10, 11 ans en 6e, ils sont conscients de ça. Ils sont conscients de ces thématiques, ils sont conscients des problèmes énergétiques, des problèmes de déchets, des problèmes de consommation. Ils sont capables de verbaliser tout ça. Aujourd'hui, le problème auquel on fait face, tous, autant qu'on peut l'être, c'est la question des moyens. Et c'est bien pour ça que je suis content qu'on soit sur cette thématique du temps de l'action. C'est-à-dire qu'en effet, c'est le temps de l'action. Mais il ne suffit pas juste de le dire en se disant, comme d'habitude, il n'y a qu'à Faucon, les vœux pieux du « on va agir ». Il faut qu'on trouve des moyens, il faut qu'on ait les clés. Et c'est pour ça que finalement, quand je me suis retrouvé face à mes élèves et que j'avais absolument aucune réponse à leur donner, parce que finalement, je partageais leurs doutes et leurs questions, mais à part leur dire « prenez plus de bain et puis changez vos ampoules », ça ne va pas bien loin et ce n'est pas très excitant pour eux de se dire « là, on est en train de changer le type de société dans lequel on vit, on est en train de changer le monde dans lequel on veut vivre plus tard et dans lequel on veut vieillir ». Donc j'ai essayé de trouver des exemples positifs, parce que le message qu'ils ont, qu'ils reçoivent et qu'on reçoit très souvent, c'est en tant qu'individu, nous, des pays du Nord, occidentaux, on est très souvent culpabilisés en nous disant « bon voilà, vous avez vu, la planète, elle est bien jolie, elle est encore belle, mais on est en train de la détruire, on est bien vilain, faites attention, retournez dans votre grotte, il ne faut plus toucher à rien ». Et donc du coup, c'est pas comme ça qu'on va se mettre en mouvement, c'est pas comme ça qu'on va réussir à se dire « Ok, je vais agir, j'ai envie d'agir, j'ai pas envie de me sentir coupable, j'ai envie de me sentir dans une dynamique positive ». Et donc j'ai voulu trouver ces exemples positifs, je les ai trouvés à travers cette fondation Goldman. Et je me suis dit « bien, ce qui marque mes élèves, souvent, c'est l'image ». C'est-à-dire qu'au lieu de leur faire des discours très longs en disant « il faut faire ça, si jamais vous changez pour le solaire, ça sera merveilleux », etc., il faut qu'ils aient des angles d'accroche sur lesquels s'appuyer pour avancer. Donc j'ai fait ce choix de partir à la rencontre sur le terrain, c'est-à-dire de passer entre une semaine et 10 jours avec chacune de ces personnes que j'ai rencontrées, pour que ça ne soit pas juste des idées ou des concepts, mais que ça soit sur le terrain, les pieds sur la terre avec eux, pour se dire comment ça marche. C'est-à-dire que vous avez eu un problème localement, dans votre village, dans votre région, qu'est-ce que vous avez mis en place, comment ça a marché, quelles ont été vos difficultés, et est-ce que finalement ce que vous avez mis en place et qui marche, on peut le dupliquer ailleurs? Est-ce que le contexte fait que c'est juste un projet qui marche chez vous, ou est-ce que finalement ça peut marcher partout? Et très souvent, à problème identique, même si le contexte a une part importante, on peut dupliquer, on peut utiliser les solutions qui sont trouvées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour maintenant basculer sur l'après, le futur, qu'est-ce que je veux faire en revenant suite à ce projet-là, je me sens investi de l'énergie et de toutes ces valeurs positives que ces personnes véhiculent. C'est-à-dire que, alors qu'ils sont dans des situations extrêmement complexes, dans des contextes politiques qui ne sont pas stables, avec absolument très très peu de ressources financières, ils trouvent les moyens de développer des solutions viables et des solutions d'envergure. Ils ont commencé petit à petit, et petit à petit, ça grandit, ça grossit. Donc aujourd'hui, moi, c'est le message que je transmets à mes élèves. Je suis rentré à Paris il y a maintenant 1 an et demi. J'ai repris un poste d'enseignant dans un petit collège sous la gare du Nord. J'ai remonté un club environnement parce que agir, c'est agir à son échelle aussi. C'est-à-dire qu'est-ce que moi, je peux, en fonction de mon temps, de mon métier, de mes compétences, de mes savoirs, qu'est-ce que je peux mettre en place pour agir? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que, autour de moi, mes actions individuelles, à leur échelle, s'inscrivent dans un mouvement collectif? Je crois fondamentalement que chacun d'entre nous, on peut changer les choses. On ne va pas révolutionner la planète tout seul, mais en s'inscrivant individuellement dans des mouvements collectifs, on peut faire changer les choses, surtout à des moments critiques. Et aujourd'hui, je pense vraiment qu'on est à un moment de changement critique sur le devenir de la planète et du type de société dans laquelle on veut vivre, c'est-à-dire sur un partage plus équitable des ressources, un accès plus simple à l'ensemble de la population qui, en effet, aujourd'hui, est en train de prendre des proportions de plus en plus importantes. Donc vous me direz sans doute aujourd'hui, bon, très bien, c'est bien joli, mais finalement, moi, là, quand je vais rentrer chez moi, du coup, je fais quoi derrière? Derrière, il faut réfléchir, justement, comme je vous disais, par rapport à ce que vous, vous faites dans votre vie. Quel est votre métier? Quel est votre investissement? Quel est votre temps? Et comment vous pouvez agir? C'est-à-dire, est-ce que en France, on a la liberté de pouvoir créer une association? On a la liberté de pouvoir s'associer peut-être avec une association qui est déjà créée. On a la liberté de prendre la parole, de se lever. C'est assez facile. C'est assez facile de s'inscrire dans un mouvement collectif. Les personnes que vous voyez, que vous avez découvertes à travers ce film, c'est des personnes qui mettent leur vie en jeu. C'est-à-dire que le prêtre Tamayo, que vous avez rencontré, il a en effet un contrat sur sa tête parce qu'il dérange des institutions financières importantes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un coup d'État en Honduras. Le padre Tamayo a été déchu de sa nationalité, a été obligé de se réfugier à l'ambassade du Brésil avec le président Zelaya. Et apparemment, depuis la semaine dernière, il y a peut-être une solution positive qui va arriver. Donc ce sont des personnes qui se mettent en jeu. En France, on peut essayer d'agir en étant moins à risque. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire... Je regarde où j'en suis, je regarde ce que je suis capable de faire, je regarde qui partage les convictions que j'ai au fond de moi et de quelle manière je peux m'associer à ce mouvement collectif. Aujourd'hui, pour conclure, parce que j'ai aussi pouvoir donner la parole à tout le monde, je ne suis pas optimiste et je ne suis pas pessimiste. En effet, réaliser ce projet, c'est une manière aussi d'être très réaliste, en se disant qu'en effet, on est face à une situation qui est grave, on est face à un moment où le pouvoir de l'argent n'a jamais semblé aussi important, mais on est aussi face à un moment où l'humanité a énormément de possibilités de communiquer, de transférer des expériences, de faire marcher des réseaux pour que ce qui a fonctionné dans un endroit puisse être investi ailleurs. Donc je pense que ça peut fonctionner et je souhaite être le véhicule de cette espérance-là parce que toutes ces personnes que j'ai rencontrées finalement sont des personnes ordinaires qui véhiculent petit à petit un optimisme en disant voilà, on va aller doucement, petit à petit, mais ça avance chez moi et je crois, je suis persuadé que comme tout est lié, le développement durable, c'est l'économie, c'est l'environnement, c'est l'humain, et tout est lié. Donc si on réussit à jouer sur un levier dans la bonne direction, je suis persuadé que tout peut avancer dans la bonne direction. Donc la seule chose sur laquelle j'aimerais terminer, c'est que finalement, on commence à être tellement habitué à être pessimiste qu'on oublie qu'on peut être optimiste, et on a toutes les raisons de l'être. Donc, essayons de lever notre conviction d'impuissance, c'est-à-dire qu'on n'est pas impuissant. On a des moyens d'agir au quotidien dans nos toutes petites actions et puis en s'associant sur des mouvements qui sont plus importants. Je vous remercie.
Merci. En tout cas, rassurez-vous, vous êtes un excellent porte-parole de cet appel à l'action collective. Aurélie Vieille-Fauze, vous êtes au ministère du Développement Durable. Donc là, on parlait d'action collective, donc là, on va passer à l'action publique. Vous êtes aussi une femme de terrain, vous êtes allée en Afrique de l'Ouest pendant pas mal de temps, vous avez pu vous rendre compte, effectivement, de ce qui se passait dans ces pays-là, comment la biodiversité peut être atteinte, dégradée. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette démarche de Cyril et de Sébastien? Qu'est-ce que vous en pensez?
Donc effectivement, j'ai plusieurs casquettes. Alors c'est vrai que quand j'ai regardé le documentaire, moi je me suis posé la question de comment on raccroche ça aussi à l'économie, puisque c'est quand même les journées de l'économie. Vous êtes des étudiants pour la plupart en économie, et effectivement après à l'action publique. Alors moi, il me semblait qu'un des points intéressants du documentaire, c'est qu'à travers les différentes expériences qu'on va passer en revue, on va voir différents facteurs qui sont responsables de la dégradation de l'environnement. Alors moi, j'en ai isolé trois grands groupes, et je pense que pour chaque groupe, ça ne suppose pas forcément après de faire la même chose. Alors par moment, c'est des forces internationales qui sont responsables de la dégradation de l'environnement. Alors c'est le cas par exemple au Honduras, où on a une demande internationale pour du bois tropical, qui est une catastrophe pour toute l'Amérique latine, et qui du coup est une contrainte externe qui est imposée au pays et qui va dégrader les ressources. Autre contrainte internationale qu'on peut rencontrer assez régulièrement, c'est ce qu'on appelle le dumping écologique. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur l'exemple de Bhopal, où là, cette fois, on est en Inde et on a une société du Nord, normalement qui dispose des technologies du Nord, du savoir-faire du Nord, qui, dans un pays du Sud, va finalement laisser la situation se dégrader, va pas mettre en place les procédures de sécurité qu'elle aurait mis dans un pays du Nord pour arriver à une catastrophe. Deuxième force qui, je pense, est responsable dans beaucoup d'endroits de la dégradation de l'environnement, évidemment, c'est les situations de guerre, donc la géopolitique. Alors ça, c'est le cas des gorilles de montagne, c'est-à-dire si dans le parc des Virunga. Bon, là, effectivement, dans le documentaire, ça passe très vite. Mais pour replacer un peu le contexte, c'est un parc qui est situé à la frontière entre la RDC, le l'Ouganda et le Rwanda. En 1994 et en 1995, lorsqu'il y a eu le génocide du Rwanda, c'est un parc qui a vu passer des afflux massifs de réfugiés. Donc comment on protège l'environnement dans des situations de guerre extrême, et est-ce qu'on est en capacité de faire des choses? Troisième facteur qui est généralement le plus important et le plus difficile à combattre, à mon sens, c'est la croissance et le développement et la croissance de la population. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des facteurs externes qui expliquent la dégradation de l'environnement. Dans la plupart des pays, on était dans des situations pas équilibrées, mais des situations où la dégradation de l'environnement, il n'y avait pas de dégradation de l'environnement, et puis on a une croissance forte de la population, des booms économiques, les déchets s'entassent, la pollution de l'air devient un vrai problème, on a des embouteillages, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait face à ces forces-là? Alors, la question qui est posée aussi dans le documentaire, c'est quel rôle, finalement, effectivement, ce que disait Sébastien, pour les gens dans les pays du Nord? Alors, je pense que par rapport à chacun des facteurs que j'identifiais, on ne va pas avoir le même type de réponse. Quand vous avez des forces internationales, la demande de bois tropical, c'est sûr qu'on est responsable, puisque c'est nous qui achetons le bois tropical. Donc là, on a vraiment des choses à mettre en place. En tant que pays du Nord, en tant que citoyen, ça va être d'acheter, par exemple, du bois certifié, ou de ne plus acheter de bois tropical tant qu'on n'arrive pas à l'exploiter durablement.
Traçabilité
du bois, puisqu'on a vu concrètement sur le terrain ce qui se passait. Le dumping écologique, il y a des choses qui ont été faites quand même pour l'éviter dans les situations les plus catastrophiques. Le premier exemple, c'est la convention de Bâle sur les déchets, qui interdit à tous les pays développés d'exporter leurs déchets toxiques vers les pays en développement. Donc c'est une convention qui existe, qui est appliquée. Dans certains cas, on a des contre-exemples, par exemple ce qui s'est passé donc en Côte d'Ivoire à Abidjan avec le bateau, le cargo Probo Koala, qui a déversé ses déchets toxiques dans la ville. Alors, deuxième force qui, moi, sur mon expérience de terrain au Burkina Faso, est beaucoup plus difficile, je pense, à combattre, c'est comment on fait pour protéger l'environnement quand on est dans une situation de guerre, comme je disais, avec des réfugiés dans tous les sens, etc. Et là, la question, alors, généralement, on ne fait rien parce qu'on ne peut rien faire. Comment vous voulez apporter de l'argent dans un pays où il n'y a plus d'État? Vous savez que l'argent, du jour au lendemain, il va partir sur des comptes offshore. De toute façon, vous ne pouvez rien gérer, c'est impossible. Et puis, vous avez ces parcs avec ces gorilles. Et ces parcs, vous pensez qu'ils ont une valeur universelle exceptionnelle. On les a classés au patrimoine mondial de l'humanité et on considère qu'ils ont une valeur pour la planète entière et qu'il faut les protéger. Et ça, c'est vraiment une des questions auxquelles sont confrontés les gens qui travaillent pour le patrimoine mondial. C'est comment on intervient et comment on essaye de sauver ces gorilles dans ces situations-là. Alors là, on voit l'exemple des Virunga, mais il y a beaucoup de parcs en Afrique qui sont dans des situations comme ça. Zakouma au Tchad, qui est un parc exceptionnel, absolument magnifique, et où là aussi, vous avez les réfugiés qui passent dans un sens, dans l'autre, l'armée qui passe. Quand elle passe, bah, évidemment, elle a besoin de manger de la viande, alors elle va tuer les éléphants en passant. Vous avez des massacres pas possibles. Vous avez des déclarations dans l'opinion publique, mais ça nous paraît bien loin. Et là, c'est très, très difficile d'agir. Et puis, donc, le dernier point, qui est là où je pense qu'on peut faire le plus de choses, c'est sur des pays en développement normaux. Donc là, ce que je disais, c'est qu'il y a des facteurs comme la croissance de la population qui font que l'environnement se dégrade, mais où il y a quand même suffisamment, entre guillemets, d'institutions pour qu'on essaye de faire des choses. Alors là, il y a une demande très très forte des pays en développement qui nous demandent de l'argent. Et dans toutes les conventions internationales sur l'environnement, la convention climat, la convention biodiversité, c'est une demande récurrente. Ils veulent des financements, des financements. Mon expérience, encore une fois, du Burkina, c'est que ce n'est pas toujours les financements qui manquent. Les financements, il y en a beaucoup. Mais par contre, savoir bien utiliser...
Quel est le montant des financements ? Vous avez une idée ? Quel est le montant que la France consacre chaque année
à... Alors, les financements sur l'environnement, je ne peux pas vous les donner parce que je ne les ai pas en tête. Mais vraiment, il y en a énormément. Et d'ailleurs, le problème, c'est parfois qu'il y en a trop et que c'est vraiment la capacité d'absorption des pays qui n'est pas au regard de ces financements. Et notamment, il y a pas mal de financements qui sont disponibles pour des petits projets. Et moi, j'ai vu plein d'exemples de petits projets qui fonctionnent sur des petits financements, effectivement, d'associations, etc. Alors, dans le documentaire, la question qui est posée, c'est est-ce qu'un individu, finalement, peut faire la différence ? C'est ce que croit Sébastien. Moi, je suis un petit peu plus pessimiste. Moi, je ne pense pas que c'est un individu, mais je pense que c'est... ce que disait ce matin M. René Passé, c'est aussi un paradigme. Ce n'est pas une personne toute seule qui arrive à faire la différence, mais c'est à un moment dans un pays, il y a suffisamment de personnes qui sont convaincues, des gens de terrain qui portent des choses, mais des gens aussi au sein du gouvernement, des bailleurs de fonds qui font des choses pas trop idiotes. Et tout cet ensemble de choses fait qu'à un moment, on arrive à avancer et protéger l'environnement. Donc à mon avis, pour arriver à protéger l'environnement dans les pays en développement, il faut des institutions, même si ça paraît un peu, c'est pas très sexy. Mais par exemple, sur une usine comme Bhopal en Inde, qu'est-ce qu'on ferait en Europe ? Ben, on a un corps d'inspecteurs des installations classées qui vient regarder les usines. Et tant que vous n'avez pas ça dans les pays en développement, vous pourrez avoir des catastrophes comme ça qui perdurent. Et donc c'est des corps de contrôle, des gens qui vont dans les parcs aussi, des institutions. Et puis donc des moyens, ça on en a parlé, c'est un peu... le nerf de la guerre, mais des moyens qui, à mon sens, sont disponibles, par contre, qui ne sont pas toujours pérennes dans le temps. Et là, les expériences que j'ai vues, des expériences réussies de terrain, les quelques rares expériences vraiment très belles dans le domaine de la conservation, c'est vraiment quand on a eu des tandems entre, d'un côté, un bailleur de fonds qui est capable d'aider pendant très longtemps un parc national, pendant 15 ans, de ne pas faire seulement un projet de 5 ans, mais qui reste vraiment longtemps sur le terrain, qui connaît bien la situation, qui ne dément jamais son engagement. Et de l'autre côté, effectivement, un gouvernement qui aussi s'engage pour protéger le parc, parce qu'il pense que c'est important, un engagement politique. Et après, effectivement, bah, sur le terrain, un directeur qui n'est pas trop corrompu, avec le temps s'est formé, qui ne bouge pas trop souvent, parce que c'est comme chez nous, hein, c'est un peu la valse des fonctionnaires dans les pays africains. Et cet ensemble de choses, quand vous avez des gens qui sont stables dans le temps sur 15 ans, bah, ça fonctionne. Et effectivement, là, on a des résultats et on arrive vraiment à protéger les populations animales et avoir vraiment des résultats en termes de remontée de population. Voilà, je vais m'arrêter là.
Merci. Alors, Eric Boel, vous n'avez pas eu le Goldman Prize. Hein, vous êtes là néanmoins parmi nous parce que vous n'êtes pas non plus dans un pays en développement. Vous êtes à Lyon. Et à Lyon aussi, on peut se mobiliser pour l'environnement et l'emploi. Je crois que vous avez repris une entreprise qui n'allait pas bien et que vous lui avez appliqué une démarche de développement durable. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a quelques mots que j'ai relevés, les uns et les autres. La croissance verte, est-ce que c'est possible sortir du capitalisme, est-ce que c'est une voie, est-ce qu'on peut être optimiste sur tout ça, il faut agir, mais comment, on est petit, on n'a pas grand chose à faire, ou tout seul on ne peut pas faire grand chose, et je crois que véritablement j'ai un slide pour vous expliquer ça. Je suis convaincu, c'est pas celui-là, je suis convaincu qu'on peut aller, on va vers un système vertueux, extrêmement optimiste, qui est en train d'installer une modification fondamentale de nos économies, qui est le système du développement durable. Alors, c'est celui-là, à savoir, comme le disait Sébastien tout à l'heure, l'alliance de l'écologie, du social et de l'économie. Mais Avant ça, j'ai écouté, c'était un peu l'initiateur de la démarche Altertex, un conte africain qui m'a beaucoup marqué. En Afrique, il y a un très grand feu de forêt et il y a un petit colibri qui part de... Tous les animaux sont partis de la forêt et il y a un petit colibri qui sort de la forêt, qui va dans une rivière, qui prend de l'eau dans son bec et qui revient le jeter sur la forêt. Donc les autres animaux l'arrêtent et lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il dit bah, « Tu vois bien, je vais éteindre la forêt. » « Mais comment tu peux éteindre la forêt avec ton petit bec ?» Bah, peut-être que je ne vais pas éteindre la forêt, mais au moins je vais faire ma part. Et il faut qu'on fasse tous notre part, et on a vraiment l'opportunité de faire plein de choses, à mon avis. Le schéma du développement durable, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps, avant de créer Altertex, et ça me semble être vraiment une évolution très vertueuse de nos sociétés. Donc, c'est-à-dire les trois axes qui sont l'écologie, le social et l'économie, il faut oublier aucun de ces trois axes, sinon ça ne marche pas, ce n'est pas du développement durable. Et l'exemple que j'ai pris en bas, illustre très bien tout ça. Alors, pour ma part, je dirige une entreprise de tissage qui est à Charlieu, à près de Roanne. On a 60 salariés, donc on sait ce que c'est que l'économie. C'est des salariés qui sont en Europe avec les règles sociales européennes. Nos concurrents sont asiatiques avec les règles sociales et les coûts salariaux qui sont en Asie. Donc ça, c'était simplement pour vous planter un peu le décor. Ce schéma-là, on peut le vivre de la manière suivante. Alors, avant d'aborder ce schéma, aussi un point très important. Le coton, c'est 2,5% des surfaces cultivées de la planète et c'est 25% de tous les pesticides et herbicides déversés sur la planète. Tout à l'heure, enfin, on a vu dans le film Bhopal, l'usine d'Union Carbide a été créée pour ça. J'ai vu des films où il y a des petites indiennes qui ont 12 ans en sari, qui vont dans des champs de coton où on a passé des défoliants avant, puisque c'est plus simple à récolter. Et évidemment, le coton, comme ça ne se mange pas, on met des pesticides, énormément de pesticides, de défoliants et autres dessus. Et elles repartent chez elles le soir avec le sari qui est mouillé de produits chimiques, avec des maux de tête, des vomissements, etc. C'est des personnes qui, à 30 ans, vont avoir un cancer, enfin, et à 30 ans, dans le meilleur des cas. Donc, on est vraiment sur des problèmes très, très graves. Ce modèle développement durable, je vais prendre l'exemple du coton. Si nous, dans la filière textile, on achète du coton bio, on respecte le premier point, qui est le développement durable, qui est l'environnement. Mais si ce coton bio, il est ramassé dans les champs par des enfants de 12 ans, ce n'est pas du développement durable. Si on achète du coton bio, on respecte l'environnement puisqu'on n'a pas mis de pesticides. Si toute la filière peut vivre dignement de son travail, on respecte le social. Donc là, on a fait deux sur les trois. Mais si le produit qu'on fait vaut trois fois le prix que le marché est prêt à accepter, on ne vendra pas un mètre de tissu, on ne vendra pas un vêtement. Donc le modèle ne marche pas. Ça ne sera plus du développement durable. Donc on est bien dans un système où il est impératif qu'on tienne compte des impératifs économiques. On tient compte non seulement des impératifs économiques, mais c'est-à-dire, à mon avis, enfin, c'est pas mon avis, la seule manière de le voir est la manière suivante. Il faut partir du marché. Qu'est-ce que veut le consommateur? Et quel modèle économique on peut mettre pour faire un produit qui satisfait les besoins du consommateur, mais qui soit en même temps respectueux de l'environnement et du social? Et ça, si on se creuse la tête, c'est pas du tout impossible. C'est vraiment à notre portée. On peut vraiment agir là-dessus. Et alors, c'est pour ça qu'on a créé Altertex. En fonction de ça, sur quoi on est parti. Si on veut faire notre boulot d'entrepreneur citoyen, toujours en reprenant l'histoire du colibri, c'est pas nous qui allons changer évidemment le monde, mais si on essaye chacun de faire une petite partie, on va pouvoir faire notre part. Dans ce cadre-là, on s'est dit, la seule chose importante finalement, dans notre métier d'entrepreneur du textile, c'est de doper la diffusion des produits développement durable dans le textile. Aujourd'hui, le textile durable, c'est moins de 1% du marché. En d'autres termes, la contribution du textile à sauvegarde de l'environnement, elle est nulle. Moins de 1%, c'est vraiment non significatif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour doper ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour passer de 1 à 10, 20, 30%? Et on est abouti à la conclusion suivante. Il faut partir du marché, de ce que veut la consommatrice. Il y a 1% ou 2% des consommateurs qui sont éco-engagés. Mais les autres, quand ils vont dans un magasin pour acheter un vêtement, ils vont acheter un vêtement parce qu'il est beau, pas parce qu'il est bio. La première motivation d'achat, c'est d'abord le look du vêtement, etc. Donc, il faut qu'on réponde à ce besoin du marché. Sinon, ça ne sert à rien. Il n'y aura pas d'économie, il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de modèle. En d'autres termes, le premier point qu'on doit avoir, c'est faire des produits respectueux du développement durable en utilisant des fibres respectueuses du développement durable, c'est-à-dire du bio, du recyclé, de l'équitable, et faire des produits qui soient sexy, pour reprendre l'expression que vous donniez tout à l'heure sur vos dossiers, c'est-à-dire des produits que la consommatrice va acheter, non pas en le marketant nécessairement, en disant qu'il est bio, qu'il est ce que vous voulez, mais elle va l'acheter comme n'importe quel produit, il est beau, donc je l'achète. Donc premier point, il faut, et là, nous, industriels, on a un rôle très important, il faut qu'on arrive à avoir une offre qui soit la plus créative possible, mais en utilisant des matières premières qui soient respectueuses de l'environnement et en respectant évidemment le social, c'est-à-dire le respect de tous les gens qui travaillent dans la filière. Ça, c'est le premier axe, donc la créativité. Et le deuxième axe, c'est le prix. Évidemment, les produits qui sont respectueux du développement durable, notamment le bio, sont beaucoup plus chers puisque la fibre vaut 30 à 40% plus cher. Donc les produits valent entre 30 et 50% plus cher. Notre idée par rapport à ça est la suivante. C'est pour ça qu'on a créé cette association Altertex. On va isoler le surcoût durable, c'est-à-dire la différence de prix entre le fil bio, entre le fil bio et le fil pas bio. Et sur une chemise, ce surcoût, il est de 20 à 30 centimes. Si on l'isole en pied de facture et que personne ne marche dessus jusqu'au bout de la chaîne, le surcoût sur le vêtement que vous, mesdames, allez acheter dans un magasin, il est de 20 à 30 centimes. Donc, il ne constituera plus un frein. Alors que si on raisonne en pourcentage, il est 30 à 40% plus cher. Là, c'est un vrai frein. Donc, avec ces deux axes, on pense pouvoir mettre en œuvre c'est pas des idées, c'est une réalisation. C'est-à-dire, concrètement, qu'on a agrégé autour de ce projet qui a 6 mois seulement 37 PME françaises pour l'instant, avec des filateurs, des tisseurs, des tricoteurs, des ennoblisseurs, des confectionneurs, des distributeurs, qui sont tous d'accord pour avancer dans cette démarche-là. Donc là, ça a démarré. Il y a un volume économique qui commence sur cette activité-là. Et j'avoue que je suis assez sidéré de la... on a rencontré sur ce projet des grands distributeurs, des gens comme Promode, comme Okaidi, comme Casino, et je suis très étonné que tous ces gens sont extrêmement réceptifs à ce discours, extrêmement réceptifs à ce réseau de PME engagé pour un textile éthique et solidaire, que vraiment on est...
Ça veut dire quoi? Qu'ils sont prêts à vous distribuer sans prendre trop de marge? Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites
ça? Ça veut dire que concrètement, cette idée de ne pas prendre de marge sur le surcoût durable, idée qui au départ me semblait très iconoclaste, finalement, c'est pas si choquant que ça, en tout cas pour les distributeurs. Alors, on a vu ces grands distributeurs, on a vu les directions générales. Il y a une dyslexie évidemment entre ce que nous disent les directions générales et ce que nous disent les services achats, qui sont encadrés dans un système de ratio extrêmement coercitif où le moindre centime fait que le produit ne peut pas passer. Mais en tout cas, l'impulsion, elle est en germe, elle est là, elle est vraiment là. Il faut qu'on la fasse éclore, et c'est nous, industriels de l'amont, de proposer des produits, de proposer cette démarche, parce que le consommateur, s'il n'a pas de produit à acheter, évidemment, il ne se passera rien du tout. Donc, ce que je suis content de vous parler de tout ça, parce qu'il me semble qu'il y a vraiment plein de choses à faire dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, que ce modèle du développement durable est extrêmement vertueux. Pourquoi ? Pour reprendre le terme que vous preniez tout à l'heure, à savoir le mot capitalisme, qui parfois est presque heurtant. Les dérives de notre économie capitaliste, qu'on a vu avec la crise des subprimes, c'est le profit érigé en seul maître, quelles que soient les conséquences, sans avoir aucune espèce de prise en compte des aspects écologiques et environnementaux et sociaux. Ça, c'est un modèle qui j'espère, mais je suis convaincu que ça va être le cas. Vous parliez tout à l'heure des enfants que vous aviez dans vos classes et qui, à 11 ans, sont très éveillés au niveau de l'environnement, etc. Tout le monde, je suis convaincu que si on fait un sondage dans la rue, 90% des gens vont dire non, ce modèle, ça ne nous convient pas. On veut un modèle qui soit respectueux de l'homme, on veut un modèle qui soit respectueux de l'environnement.
On peut faire un sondage dans la salle, si vous voulez, voir quelle serait la réponse. Ouais.
Pourquoi pas ? Ceux qui sont plutôt pour le modèle où le profit érigé en totem, levez le doigt. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui lèveront le doigt. Donc, ce modèle est intéressant parce que, tout simplement, on ne perd pas de vue l'économie. Surtout pas. Parce que si on fait de l'écologique et du social, qu'on érige ça en dogme, mais que le modèle aboutit à des produits qui sont complètement décalés des besoins du consommateur, ça ne sert à rien. On va se faire plaisir, on va faire de la philosophie, mais on va pas faire de l'économique. Et l'économie, c'est notre société, elle fonctionne avec l'économie. Et donc, ce modèle-là prend en compte l'économique. Par contre, c'est qu'un économique où le profit n'est plus un but en soi, mais un moyen qui permet d'avoir des entreprises qui sont pérennes, des entreprises qui ont des bons bilans, des entreprises où les profits qui sont dégagés sont utilisés pour la pérennité de l'entreprise, mais aussi pour le social et pour l'environnement. Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup. On a encore un message d'optimisme. René Passé, ce matin, vous étiez grand témoin, donc on va faire encore grand témoin bis, si vous le voulez bien. Dans leur film, Sébastien et Cyril disent « Est-ce que le 21e siècle sera celui des hommes ordinaires ?» Est-ce que ça veut dire qu'on peut tous être, Eric, Sébastien, Cyril, est-ce qu'on peut tous être des acteurs de l'histoire, selon vous ?
Écoutez, moi d'abord, je voudrais réagir très simplement, très spontanément. Je ne suis pas économiste aujourd'hui. Devant vous. Je suis simplement un bonhomme qui ressort, comme vous tous sans doute, assez bouleversé de ce qu'il vient de voir. Alors, vous savez très souvent, quand on a vu un très beau spectacle, quelque chose de très... on n'a pas envie d'en parler.
N'oubliez pas votre micro.
Alors, si vous voulez, je pourrais m'en tirer facilement, vous dire je n'ai pas envie d'en parler. C'est la vérité. On a envie simplement de se replier, de laisser les choses vous travailler. Et puis, au bout de quelque temps, on s'aperçoit que, bah oui, ça laisse des marques durables. Alors, je suis dans cet état d'esprit. Enfin, me défiler devant l'économie, ça m'est relativement facile après les deux interventions de mes prédécesseurs. Ils ont très bien dit ce que j'aurais pu dire et mieux ce que j'aurais pu dire. Même quand je suis économiste, je me représente toujours comme, je ne sais pas si vous connaissez, ce petit homme du dessinateur Batelier. Il est tout nu, tout moche, sur la planète qui se détache du fond noir de l'univers. Et puis, il a une question, voilà, d'ailleurs la dimension croissante des lettres qui sortent de sa bouche, qui montrent son inquiétude. Il y a quelqu'un, c'est tout son problème, et je crois que c'est tout notre problème. Ce « il y a quelqu'un », transformons-le, si vous voulez, simplement en « cette vie a-t-elle un sens ? Que faisons-nous là ? Comment ce monde fonctionne-t-il ? etc. » C'est comme ça que j'interroge l'économie. Je dis souvent, l'économie, pour moi, c'est le lieu d'où j'interroge. C'est le type de question que je pose, mais en aucun cas, ça ne doit être ma prison. Et ce n'est pas ma prison. Car si les questions sont des questions d'ordre économique, et je crois que toute science se définit par rapport au type de questionnement qu'il pose au monde, rien ne m'interdit d'aller chercher les réponses ailleurs que dans le champ que l'on qualifie couramment d'économie. Je dirais plus. C'est quand j'ai l'air de sortir de l'économie que je suis économiste. Et c'est lorsque j'ai l'air de n'en pas sortir que j'outrepasse mes droits. Car si j'ai l'air d'en sortir, c'est parce que j'interroge. J'interroge le spécialiste des sciences cognitives, J'interroge le physicien, j'interroge le biologiste, j'interroge l'écologue. Donc, je m'informe de leur savoir, j'essaie d'en tenir compte et je ne me substitue pas à eux. Et celui qui fait semblant de rester entièrement dans son économie et qui a la prétention de répondre à tout à partir de là, ce n'est pas un économiste. Il sort de son champ de l'économie. Au nom de quoi mon économie me permettrait-elle de me prononcer, par exemple, sur les mobiles du comportement humain? Pardonnez-moi, je me suis laissé un peu aller, j'en ai dit un peu plus que ce que je ne voulais. Mais voilà, ça me permet de me situer. Alors, oui, mais mes sentiments en face de ce film, ils sont doubles. D'abord, un sentiment d'écrasement. On a vraiment l'impression de force, par moments, absolument gigantesque et anonyme. Et en face de ça, on s'est dit, mais que sommes-nous, pauvres hommes? Comment peut-on réussir à lutter contre ça et à réagir si peu que ce soit? Puis la réponse, vous la donnez, non, ce n'est pas vous qui nous la donnez. Vous avez su la voir et nous la communiquer. Ce sont les merveilleux acteurs de ce film qui nous la donnent. Chacun engagé profondément, croit en ce qu'il fait, espère et lutte jusqu'au bout. Alors, on est partagé entre cet écrasement et cet espoir. Et c'est là que je voudrais alors retrouver ma dimension d'économiste pluridisciplinaire, car dans ce film, une phrase qui vient presque à la fin et qui pour moi est la conclusion de ce film, c'est celle dans laquelle vous dites « Le siècle qui vient sera peut-être celui des hommes ordinaires ». Et vous vous souvenez quand vous m'avez présenté tout à l'heure en discussion le contenu de ce film, je vous ai dit « Mais ma réaction spontanée, c'est de vous dire « Mais nous sommes tous des acteurs de l'histoire ». Alors c'est ce que je voudrais dire en deux mots. Et c'est là que ma fréquentation d'autres disciplines que l'économie m'est très utile, je crois, dans le champ de l'économie. Je pense qu'il y a trois façons de voir le rôle des hommes dans l'histoire et notre rôle à nous. Il y a, disons, celle de l'univers mécaniste, l'univers de Newton, disons, représenté par l'horloge, où le même mouvement mécanique déterminé se répète inéluctablement. Les choses sont là où elles doivent être. Quand on connaît la position d'un élément dans le monde et la loi de son mouvement, on sait où il sera à n'importe quel moment de l'avenir, on sait où il était à n'importe quel moment du passé. Alors, dans ce cas, bien, l'homme aussi est déterminé. Cet homme n'est pas un acteur de l'histoire. Cet homme, c'est le chien crevé de l'histoire, emporté par le courant dans lequel auquel il ne peut rien. Puis il y a, au passage, c'est l'image de l'économie marchande. Le marché règle. Nous n'avons pas à intervenir. La logique marchande nous amène forcément à l'optimum. Puis il y a la deuxième vision qui ne me donne pas encore tout à fait satisfaction, mais qui a son importance. C'est l'image du torrent. Le torrent, c'est-à-dire la force qui déplace les choses, c'est-à-dire en un mot, après la mécanique, la thermodynamique, la force qui nous emporte. Et cette image, c'est très étonnant. Elle a été utilisée à la fois par Marx pour décrire le rôle de l'homme dans l'histoire et par le très grand physicien Thomson, Lord Kelvin. Alors la leçon ici, elle est simple. L'histoire va quelque part. Elle a un aboutissement inéluctable. Celui qui veut nager contre le courant sera vaincu, par épuisement, il sera obligé d'abandonner, etc. Mais celui qui sait reconnaître le parcours du courant et qui nage dans le sens du courant peut choisir son parcours, accélérer le moment d'arrivée. Autrement dit, cet homme-là, ça n'est pas un acteur de l'histoire. L'histoire se fait et lui, il est intégré. Mais il est un acteur dans l'histoire. Il peut agir sur les modalités de l'histoire. Et alors aujourd'hui, et c'est là que je voulais en venir, parce que c'est là que nous allons retrouver peut-être le siècle des hommes ordinaires. Aujourd'hui, les sciences physiques, je pense à la thermodynamique de Prigogine, les sciences cognitives, etc., nous donnent une troisième image. Si vous voulez, je dirais, puisque je suis parti sur des images, le tourbillon créateur. Vous voyez, dans le courant de l'eau, parfois, un élément ou un tout petit nombre d'éléments qui divergent prennent un mouvement giratoire et puis ils entraînent autour d'eux et à partir d'une déviance limitée se crée le tourbillon. Et on retrouve d'ailleurs Diderot qui disait, quand on lui parlait de Newton et de l'équilibre, Diderot disait, mais enfin, si les choses tournent toujours comme ça, de façon régulière, mais comment, si le monde n'est que répétitif, comment ce monde a-t-il pu se créer ? Pour que le monde se crée, il faut qu'il y ait des choses qui divergent. Ben, nous les avons, vous nous avez montré les hommes qui divergent. Et je crois que là, nous voyons deux manières d'agir sur l'histoire, et nous les avons vécues dans notre histoire, les uns et les autres. Il y a deux manières d'agir sur l'histoire. Il y a celui qui, au point où ça diverge, c'est-à-dire le point critique, devient l'acteur. Vous voyez, à un moment donné, les forces s'équilibrent, l'histoire peut partir par là ou par là, et entre les deux, ben c'est une pichenette, c'est un rien qui va faire basculer l'histoire. Alors là, l'homme peut agir, c'est la place du héros de Carlyle qui fait bouger l'histoire, etc. C'est déjà réconfortant de penser que les hommes peuvent agir, mais ça ne l'est qu'à moitié, parce que le héros de Carlyle, ça ne court pas les rues. Ce qui est beaucoup plus important, me semble-t-il, c'est que s'il n'y a pas derrière tout ça un milieu porteur, le héros ne peut rien. Il va faire sa déviance et il sera ravalé par le mouvement, il ne se passera rien. Nous avons vécu quelques événements comme ça il n'y a pas tellement longtemps. Regardez Khrouchtchev essayant de faire dévier l'histoire de l'URSS dans une direction qui lui paraît souhaitable. Le malheureux se trouve dans un milieu qui n'est pas réceptif, qui ne le porte pas. Alors en trois coups de cuillère à peau, il est balayé, lessivé, digéré, résorbé, exit Khrouchtchev. Un peu plus tard, une expérience presque identique, Gorbatchev. Ah, ça, on peut dire qu'il a réussi à déstabiliser le milieu. Je pense même que si on lui demandait son avis, il a certainement réussi au-delà de ses expériences, de ses espérances, pardon. Oui, il y avait là un milieu porteur. Ben, le milieu porteur, c'est nous. Nous sommes le milieu porteur, mais en outre, il nous appartient à tous d'agir sur ce milieu et de le transformer. Alors voilà la grande espérance que vous nous donnez. Vous voyez, en parlant, j'allais vous dire, on vient de voir des images bouleversantes, et puis moi, mon métier, c'est de conceptualiser. Et quand c'est comme ça, j'ai un peu honte, je me sens un peu déplacé. Mais là, vous voyez, vous me permettez de retrouver vos hommes ordinaires qui sont peut-être les héros de l'histoire de demain, ceux qui feront l'histoire de demain. Alors merci de nous avoir montré tout ça.
Merci, on est passé. Le milieu porteur, c'était les journées de l'économie. Donc merci aux journées de l'économie d'avoir été un des milieux porteurs pour tous ces témoignages vraiment passionnants. Je voudrais qu'on ait une discussion avec la salle, on a à peu près un quart d'heure, 20 minutes, donc je vous laisse la parole et il y a des micros qui vont circuler pour les questions.